Lettre 21 de Saint Preux à Julie.
Que j'ai souffert en la recevant, cette lettre souhaitée avec tant d'ardeur. J'attendais le courrier à la poste. À peine le paquet était-il ouvert que je me nomme. Je me rends importun. On me dit qu'il y a une lettre. Je tressaille. Je la demande, agitée d'une mortelle impatience. Je la reçois enfin. Julie, j'aperçois les traits de ta main adorée. La mienne tremble en s'avançant pour recevoir ce précieux dépôt. Je voudrais baiser mille fois ces sacrés caractères. Ô circonspection d'un amour craintif! Je n'ose porter la lettre à ma bouche, ni l'ouvrir devant tant de témoins. Je me dérobe, à la hâte, mes genoux tremblaient sous moi. Mon émotion croissante me laisse à peine apercevoir mon chemin. J'ouvre la lettre au premier détour, je la parcours, je la dévore, et à peine suis-je à ces lignes où tu peins si bien les plaisirs de ton cœur en embrassant ce respectable père, que je fonds en larmes. On me regarde. J'entre dans une allée pour échapper aux spectateurs. Là, je partage ton attendrissement. J'embrasse avec transport cet heureux père que je connais à peine, et, la voix de la nature me rappelant au mien, je donne de nouvelles pleurs à sa mémoire honorée. Et que vouliez-vous apprendre, incomparable fille, dans mon vain et triste savoir? Ah, c'est de vous qu'il faut apprendre tout ce qui peut entrer de bon, d'honnête, dans une âme humaine. Et surtout ce divin accord de la vertu, de l'amour et de la nature, qui ne se trouve jamais qu'en vous. Non, il n'y a point d'affection saine qui n'ait sa place dans votre cœur, qui ne s'y distingue par la sensibilité qui vous est propre, et pour savoir moi-même régler le mien, comme j'ai soumis toutes mes actions à vos volontés, je vois bien qu'il faut soumettre encore tous mes sentiments aux vôtres. Quelle différence pourtant de votre état au mien, daignez le remarquer? Je ne parle point du rang et de la fortune, l'honneur et l'amour doivent en cela suppléer à tout, mais vous êtes environné de gens que vous chérissez et qui vous adorent, les soins d'une tendre mère, d'un père dont vous êtes l'unique espoir, l'amitié d'une cousine qui semble ne respirer que par vous, toute une famille dont vous faites l'ornement, une ville entière fière de vous avoir vu naître, tout occupe et partage votre sensibilité. Et ce qu'il en reste à l'amour n'est que la moindre partie de ce qui lui ravissent les droits du sang et de l'amitié. Mais moi, Julie, hélas, errant, sans famille et presque sans patrie, je n'ai que vous sur la terre, et l'amour, seul, me tient lieu de tout. Ne soyez donc pas surprise si, bien que votre âme soit la plus sensible, la mienne sait le mieux aimer, et si, vous cédant en tant de choses, j'emporte au moins le prix de l'amour. Ne craignez pourtant pas que je vous importune encore de mes indiscrètes plaintes. Non, je respecterai vos plaisirs, et pour eux-mêmes, qui sont si purs, et pour vous qui les ressentez. Je m'en formerai dans l'esprit le touchant spectacle, je les partagerai de loin, et ne pouvant être heureux de ma propre félicité, je le serai de la vôtre. Quelles que soient les raisons qui me tiennent éloigné de vous, je les respecte. Et que me servirait de les connaître si, quand je devrais les désapprouver, il n'en faudrait pas moins obéir à la volonté qu'elle vous inspire? M'en coûtera-t-il plus de garder le silence qu'il m'en coûta de vous quitter? Souvenez-vous toujours, ô Julie, que votre âme a deux corps à gouverner, et que celui qu'elle anime par son choix lui sera toujours le plus fidèle. Nodo pior forte, fabricato da noi, non dalla sorte. Je me tais donc. Et jusqu'à ce qu'il vous plaise de terminer mon exil, je vais tâcher d'en tempérer l'ennui en parcourant les montagnes du Valais, tandis qu'elles sont encore praticables. Je m'aperçois que ce pays ignoré mérite les regards des hommes, et qu'il ne lui manque, pour être admiré, que des spectateurs qui le sachent voir. Je tâcherai d'en tirer quelques observations dignes de vous plaire. Pour amuser une jolie femme, il faudrait peindre un peuple aimable et galant. Mais toi, ma Julie... Je le sais bien. Le tableau d'un peuple heureux et simple est celui qu'il faut à ton cœur.
Lettre 22 de Julie à Saint-Preux.
Enfin, le premier pas est franchi, et il a été question de vous. Malgré le mépris que vous témoignez pour ma doctrine, mon père en a été surpris. Il n'a pas moins admiré mes progrès dans la musique et dans le dessin, et au grand étonnement de ma mère, prévenue par vos calomnies et au blason près, qui lui a paru négligé, il a été fort content de tous mes talents. Mais ces talents ne s'acquièrent pas sans maître, il a fallu nommer le mien, et je l'ai fait avec une énumération pompeuse de toutes les sciences qu'il voulait bien m'enseigner, hors une. Il s'est rappelé de vous avoir vu plusieurs fois à son précédent voyage, et il n'a pas paru qu'il eût conservé de vous une impression désavantageuse. Ensuite, il s'est informé de votre fortune. On lui a dit qu'elle était médiocre. De votre naissance, on lui a dit qu'elle était honnête. Ce mot « honnête » est fort équivoque à l'oreille d'un gentilhomme, et a excité des soupçons que l'éclaircissement a confirmés. Dès qu'il a su que vous n'étiez pas noble, il a demandé ce qu'on vous donnait par mois. Ma mère, prenant la parole, a dit qu'un pareil arrangement n'était pas même proposable, et qu'au contraire, vous aviez rejeté constamment tous les moindres présents qu'elle avait tâché de vous faire en choses qui ne se refusent pas. Mais cet air de fierté n'a fait qu'exciter la sienne, et le moyen de supporter l'idée d'être redevable à un roturier. Il a donc été décidé qu'on vous offrirait un paiement, au refus duquel, malgré tout votre mérite, dont on convient, vous seriez remercié de vos soins. Voilà, mon ami, le résumé d'une conversation qui a été tenue sur le compte de mon très honoré maître, et durant laquelle son humble écolière n'était pas fort tranquille. J'ai cru ne pouvoir trop me hâter de vous en donner avis, afin de vous laisser le temps d'y réfléchir. Aussitôt que vous aurez pris votre résolution, ne manquez pas de m'en instruire, car cet article est de votre compétence, et mes droits ne vont pas jusque-là. J'apprends avec peine vos courses dans les montagnes. Non que vous n'y trouviez, à mon avis, une agréable diversion, et que le détail de ce que vous aurez vu ne me soit fort agréable à moi-même, mais je crains pour vous des fatigues que vous n'êtes guère en état de supporter. D'ailleurs, la saison est fort avancée. D'un jour à l'autre, tout peut se couvrir de neige, et je prévois que vous aurez encore plus à souffrir du froid que de la fatigue. Si vous tombiez malade dans le pays où vous êtes, je ne m'en consolerai jamais. Revenez donc, mon bon ami, dans mon voisinage. Il n'est pas temps encore de rentrer à Vevey, mais je veux que vous habitiez un séjour moins rude et que nous soyons plus à portée d'avoir aisément des nouvelles l'un de l'autre. Je vous laisse le maître du choix de votre station. Tâchez seulement qu'on ne sache point ici où vous êtes et soyez discret sans être mystérieux. Je ne vous dis rien sur ce chapitre. Je me fie à l'intérêt que vous avez d'être prudent et plus encore à celui que j'ai que vous le soyez. Adieu, mon ami. Je ne puis m'entretenir plus longtemps avec vous. Vous savez de quelles précautions j'ai besoin pour vous écrire. Ce n'est pas tout. Mon père a amené un étranger respectable, son ancien ami, et qui lui a sauvé autrefois la vie à la guerre. Jugez si nous nous sommes efforcés de le bien recevoir. Il repart demain, et nous nous hâtons de lui procurer, pour le jour qui nous reste, tous les amusements qui peuvent marquer notre zèle à un tel bienfaiteur. On m'appelle, il faut finir. Adieu, Derechef.
Lettre 23 de Saint-Preux à Julie.
À peine ai-je employé 8 jours à parcourir un pays qui demanderait des années d'observation. Mais, outre que la neige me chasse, j'ai voulu revenir au-devant du courrier qui m'apporte, j'espère, une de vos lettres. En attendant qu'elle arrive, je commence par vous écrire celle-ci, après laquelle j'en écrirai s'il est nécessaire une seconde pour répondre à la vôtre. Je ne vous ferai point ici un détail de mon voyage et de mes remarques. J'en ai fait une relation que je compte vous porter. Il faut réserver notre correspondance pour les choses qui nous touchent de plus près l'un et l'autre. Je me contenterai de vous parler de la situation de mon âme. Il est juste de vous rendre compte de l'usage qu'on fait de votre bien. J'étais parti, triste de mes peines et consolé de votre joie, ce qui me tenait dans un certain état de langueur qui n'est pas sans charme pour un cœur sensible. Je gravissais lentement et à pied des sentiers assez rudes, conduits par un homme que j'avais pris pour être mon guide et dans lequel, durant toute la route, j'ai trouvé plutôt un ami qu'un mercenaire. Je voulais rêver, et j'en étais toujours détourné par quelques spectacles inattendus. Tantôt d'immenses roches pendaient en ruine au-dessus de ma tête, tantôt de hautes et bruyantes cascades m'inondaient de leur épais brouillard, tantôt un torrent éternel ouvrait à mes côtés un abîme dont les yeux n'osaient sonder la profondeur. Quelquefois, je me perdais dans l'obscurité d'un bois touffu. Quelquefois, en sortant d'un gouffre, une agréable prairie réjouissait tout à coup mes regards. Un mélange étonnant de la nature sauvage et de la nature cultivée, montrée partout la main des hommes où l'on eût cru qu'ils n'avaient jamais pénétré. À côté d'une caverne, on trouvait des maisons, on voyait des pampres secs où l'on eût cherché que des ronces, des vignes dans des terres éboulées, d'excellents fruits sur des rochers, et des champs dans des précipices. Ce n'était pas seulement le travail des hommes qui rendait ces pays étranges si bizarrement contrastés. La nature semblait encore prendre plaisir à s'y mettre en opposition avec elle-même, tant on la trouvait différente en un même lieu sous divers aspects. Au levant, les fleurs du printemps, au midi, les fruits de l'automne, au nord, les glaces de l'hiver. Elle réunissait toutes les saisons dans le même instant, tous les climats dans le même lieu, des terrains contraires sur le même sol, et formait l'accord, inconnu partout ailleurs, des productions des plaines et de celles des Alpes. Ajoutez à tout cela les illusions de l'optique, les pointes des monts différemment éclairés, le clair-obscur du soleil et des ombres, et tous les accidents de lumière qui en résultaient le matin et le soir. Vous aurez quelque idée des scènes continuelles qui ne cessèrent d'attirer mon admiration, et qui semblaient m'être offertes en un vrai théâtre. Car la perspective des monts, étant verticale, frappe les yeux tout à la fois et bien plus puissamment que celle des plaines, qui se voient qu'obliquement, en fuyant, et dont chaque objet vous en cache un autre. J'attribuais, durant la première journée, aux agréments de cette variété, le calme que je sentais renaître en moi. J'admirais l'empire qu'ont sur nos passions les plus vives, les êtres les plus insensibles, et je méprisais la philosophie de ne pouvoir pas même autant sur l'âme qu'une suite d'objets inanimés. Mais cet état paisible ayant duré la nuit et augmenté le lendemain, je ne tardais pas de juger qu'il y avait encore quelque autre cause qui ne m'était pas connue. J'arrivais ce jour-là sur des montagnes les moins élevées, et parcourant ensuite leurs inégalités, sur celles des plus hautes qui étaient à ma portée. Après m'être promené dans les nuages, j'atteignis un séjour plus serein, d'où l'on voit dans la saison le tonnerre et l'orage se former au-dessous de soi. Image trop vaine de l'âme du sage, dont l'exemple n'existe à jamais, ou n'existe qu'au même lieu d'où l'on en a tiré l'emblème. Ce fut là que je démêlai sensiblement dans la pureté de l'air où je me trouvais la véritable cause du changement de mon humeur et du retour de cette paix intérieure que j'avais perdue depuis si longtemps. En effet, c'est une impression générale qu'éprouvent tous les hommes, quoiqu'ils ne l'observent pas tous, que sur les hautes montagnes où l'air est si pur et subtil, on se sent plus de facilité dans la respiration, plus de légèreté dans le corps, plus de sérénité dans l'esprit. Les plaisirs y sont moins ardents, les passions plus modérées. Les méditations y prennent je ne sais quel caractère grand et sublime, proportionné aux objets qui nous frappent. Je ne sais quelle volupté tranquille qui n'a rien d'âcre et de sensuel. Il me semble qu'en s'élevant au-dessus du séjour des hommes, on y laisse tous les sentiments bas et terrestres, et qu'à mesure qu'on approche des régions éthérées, l'âme contracte quelque chose de leur inaltérable pureté. On y est grave, sans mélancolie, paisible, sans indolence, content d'être et de penser. Tous les désirs trop vifs s'émoussent. Ils perdent cette pointe aiguë qui les rend douloureux. Ils ne laissent au fond du cœur qu'une émotion légère et douce. Et c'est ainsi qu'un heureux climat fait servir à la félicité de l'homme les passions qui font ailleurs son tourment. Je doute qu'aucune agitation violente, aucune maladie de vapeur, pût tenir contre un pareil séjour prolongé. Et je suis surpris que des bains de l'air salutaire et bienfaisant des montagnes ne soient pas un des grands remèdes de la médecine et de la morale. Quin non palazzi, non teatro o loggia, ma in lor vece e in abete, un faggio, un pino, tra l'erba verde e il bel monte vicino, levan di terra, a ciel nostro intelletto. Supposez les impressions réunies de ce que je viens de vous décrire, et vous aurez quelque idée de la situation délicieuse où je me trouvais. Imaginez la variété, la grandeur, la beauté de mille étonnants spectacles, le plaisir de ne voir autour de soi que des objets tout nouveaux, des oiseaux étranges, des plantes bizarres et inconnues, d'observer en quelque sorte une autre nature, et de se trouver dans un nouveau monde. Tout cela fait aux yeux un mélange inexprimable, dont le charme augmente encore par la subtilité de l'air qui rend les couleurs plus vives, les traits plus marqués, rapproche tous les points de vue. Les distances paraissant moindres que dans les plaines, où l'épaisseur de l'air couvre la terre d'un voile, l'horizon présente aux yeux plus d'objets qu'il semble n'en pouvoir contenir. Enfin, le spectacle a je ne sais quoi de magique, de surnaturel, qui ravit l'esprit et les sens. On oublie tout, on s'oublie soi-même. On ne sait plus où l'on est. J'aurais passé tout le temps de mon voyage dans le seul enchantement du paysage, si je n'en eusse éprouvé un plus doux encore dans le commerce des habitants. Vous trouverez dans ma description un léger crayon de leurs mœurs, de leur simplicité, de leur égalité d'âme, et de cette paisible tranquillité qui les rend heureux par l'exemption des peines plutôt que par le goût des plaisirs. Mais ce que je n'ai pas pu vous peindre et que l'on ne peut guère imaginer, c'est leur humanité désintéressée, et leur zèle hospitalier pour tous les étrangers que le hasard ou la curiosité conduisent parmi eux. J'en fis une épreuve surprenante, moi qui n'étais connu de personne et qui ne marchais qu'à l'aide d'un conducteur. Quand j'arrivais le soir dans un hameau, chacun venait avec tant d'empressement m'offrir sa maison que j'étais embarrassé du choix. Et celui qui obtenait la préférence en paraissait si content que la première fois je pris cette ardeur pour de l'avidité. Mais je fus bien étonné quand, après en avoir usé chez mon hôte, à peu près comme au cabaret, il refusa le lendemain mon argent, s'offensant même de ma proposition. Et il en a partout été de même. Ainsi, c'était le pur amour de l'hospitalité, communément assez tiède, qu'à sa vivacité, j'avais pris pour l'âpreté du gain. Leur désintéressement fut si complet que dans tout le voyage, je n'ai pu trouver à placer un patagon. En effet, à quoi dépenser de l'argent dans un pays où les maîtres ne reçoivent point le prix de leurs frais, ni les domestiques celui de leurs soins, et où l'on ne trouve aucun mendiant. Cependant, l'argent est fort rare dans le Haut-Valais. Mais c'est pour cela que les habitants sont à leur aise, car les denrées y sont abondantes, sans aucun débouché au dehors, sans consommation de luxe au-dedans, et sans que le cultivateur montagnard, dont les travaux sont les plaisirs, devienne moins laborieux. Si jamais ils ont plus d'argent, ils seront infailliblement plus pauvres. Ils ont la sagesse de le sentir, et il y a dans le pays des mines d'or qu'il n'est pas permis d'exploiter. J'étais d'abord fort surpris de l'opposition de ces usages avec ceux du Bas-Valais, où, sur la route d'Italie, on rançonne assez durement les passagers. Et j'avais peine à concilier dans un même peuple des manières si différentes. Un Valaisan m'en expliqua la raison. « Dans la vallée, me dit-il, les étrangers qui passent sont des marchands, et d'autres gens uniquement occupés de leurs négoces et de leurs gains. Il est juste qu'ils nous laissent une partie de leurs profits et nous les traitons comme ils traitent les autres. Mais ici, où nulle affaire n'appelle les étrangers, nous sommes sûrs que leur voyage est désintéressé. L'accueil qu'on leur fait l'est aussi. Ce sont des hôtes qui nous viennent voir parce qu'ils nous aiment et nous les recevons avec amitié. Au reste, ajouta-t-il en souriant, cette hospitalité n'est pas coûteuse, et peu de gens s'avisent d'en profiter. Ah, je le crois, lui répondis-je. Que ferait-on chez un peuple qui vit pour vivre, non pour gagner ni pour briller? Heureux homme et digne de l'être, j'aime à croire qu'il faut vous ressembler en quelque chose pour se plaire au milieu de vous. Ce qui me paraissait le plus agréable dans leur accueil, ce n'était pas de trouver le moindre vestige de gêne ni pour eux ni pour moi. Ils vivaient dans leur maison comme si je n'y eusse pas été, et ils ne tenaient qu'à moi d'y être comme si j'y eusse été seul. Ils ne connaissent point l'incommode vanité d'en faire les honneurs aux étrangers, comme pour les avertir de la présence d'un maître, dont on dépend au moins en cela. Si je ne disais rien, ils supposaient que je voulais vivre à leur manière. Je n'avais qu'à dire un mot pour vivre à la mienne, sans éprouver jamais de leur part la moindre marque de répugnance ou d'étonnement. Le seul compliment qu'ils me firent après avoir su que j'étais suisse fut de me dire que nous étions frères, mais que je n'avais qu'à me regarder chez eux comme étant chez moi. Puis ils ne s'embarrassèrent plus de ce que je faisais, n'imaginant pas même que je puisse avoir le moindre doute sur la sincérité de leurs offres, ni le moindre scrupule à m'en prévaloir. Ils usent entre eux avec la même simplicité. Les enfants, en âge de raison, sont les égaux de leur père, les domestiques s'asseyent à table avec leur maître, la même liberté règne dans les maisons et dans la République, et la famille est l'image de l'État. La seule chose sur laquelle je ne jouissais pas de la liberté était la durée excessive des repas. J'étais bien le maître de ne pas mettre à table, mais quand j'y étais une fois, il fallait y rester une partie de la journée, et boire d'autant. Le moyen d'imaginer qu'un homme et un Suisse n'aimât pas à boire. En effet, j'avoue que le bon vin me paraît une excellente chose, et que je ne hais point à m'en égayer, pourvu qu'on ne m'y force pas. J'ai toujours remarqué que les gens faux sont sobres, et la grande réserve de la table annonce assez souvent des mœurs feintes et des âmes doubles. Un homme franc craint moins ce babil affectueux et ces tendres épanchements qui précèdent l'ivresse, mais il faut savoir s'arrêter et prévenir l'excès. Voilà ce qu'il ne m'était guère possible de faire avec d'aussi déterminés buveurs que les Valaisans, des vins aussi violents que ceux du pays, et sur des tables où l'on ne vit jamais d'eau. Comment se résoudre à jouer si sottement le sage et à fâcher de si bonnes gens? Je m'enivrais donc par reconnaissance, et ne pouvant payer mon écho de ma bourse, je le payais de ma raison. Un autre usage qui ne me gênait guère moins, c'était de voir, même chez des magistrats, la femme et les filles de la maison, debout derrière ma chaise, servir à table comme des domestiques. La galanterie française se serait d'autant plus tourmentée à réparer cette incongruité, qu'avec la figure des Valaisannes, des servantes même rendraient leur service embarrassant. Vous pouvez m'en croire, elles sont jolies, puisqu'elles m'ont paru l'être. Des yeux accoutumés à vous voir sont difficiles en beauté. Pour moi, qui respecte encore plus les usages des pays où je vis que ceux de la galanterie, je recevais leur service en silence avec autant de gravité que Don Quichotte chez la duchesse. J'opposais quelquefois en souriant les grandes barbes et l'air grossier des convives au teint éblouissant de ces jeunes beautés timides, qu'un mot faisait rougir et ne rendait que plus agréable. Mais je fus un peu choqué de l'énorme ampleur de leur gorge, qui n'a dans sa blancheur éblouissante qu'un des avantages du modèle que je n'osais lui comparer, modèle unique et voilé, dont les contours furtivement observés me peignent ceux de cette coupe célèbre à qui le plus beau sein du monde servit de moule. Ne soyez pas surprise de me trouver si savant sur des mystères que vous cachez si bien. Je le suis en dépit de vous. Un sens en peut quelquefois instruire un autre. Malgré la plus jalouse vigilance, il échappe à l'ajustement le mieux concerté quelques légers interstices par lesquels la vue opère l'effet du toucher. L'œil avide et téméraire s'insinue impunément sous les fleurs d'un bouquet, il erre sous la chenille et la gaze, et fait sentir à la main la résistance élastique qu'elle n'oserait éprouver. Parte a part delle mame acerbe e crude. Parte altrui ne ricopre invida vesta. Invida massaglia occhi il varco chiude. L'amoroso pensier già non arresta. Je remarquai aussi un grand défaut dans l'habillement des Valaisannes. C'est d'avoir des corps de robes si élevés par derrière qu'elles en paraissaient bossues. Cela fait un effet singulier avec leur petite coiffure noire et le reste de leur ajustement, qui ne manque au surplus ni de simplicité ni d'élégance. Je vous porte un habit complet à la Valaisanne, et j'espère qu'il vous ira bien. Il a été pris sur la plus jolie taille du pays. Tandis que je parcourais avec extase ces lieux si peu connus et si dignes d'être admirés, que faisiez-vous cependant, ma Julie? Étiez-vous oubliée de votre amie? Julie oubliée? Ne m'oublierais-je pas plutôt moi-même? Et que pourrais-je, un moment seul, moi qui ne suis plus rien que par vous? Je n'ai jamais mieux remarqué avec quel instinct je place en divers lieux notre existence commune, selon l'état de mon âme. Quand je suis triste, elle se réfugie auprès de la vôtre, et cherche des consolations au lieu où vous êtes. C'est ce que j'éprouvais en vous quittant. Quand j'ai du plaisir, je n'en saurais jouir seul, et pour le partager avec vous, je vous appelle alors où je suis. Voilà ce qui m'est arrivé durant toute cette course, où, la diversité des objets me rappelant sans cesse en moi-même, je vous conduisais partout avec moi. Je ne faisais pas un pas que nous ne le fissions ensemble. Je n'admirais pas une vue sans me hâter de vous la montrer. Tous les arbres que je rencontrais vous prêtaient leur ombre, tous les gazons vous servaient de siège. Tantôt assis à vos côtés, je vous aidais à parcourir des yeux les objets, tantôt à vos genoux, j'en contemplais un plus digne des regards d'un homme sensible. Rencontrais-je un pas difficile, je vous le voyais franchir avec la légèreté d'un faon qui bondit après sa mère. Fallait-il traverser un torrent, j'osais presser dans mes bras une si douce charge. Je passais le torrent lentement avec délice, et je voyais à regret le chemin que j'allais atteindre. Tout me rappelait à vous dans ce séjour paisible, et les touchants attraits de la nature, et l'inaltérable pureté de l'air, et les mœurs simples des habitants, et leur sagesse égale et sûre, et l'aimable pudeur du sexe, et ses innocentes grâces, et tout ce qui frappait agréablement mes yeux et mon cœur leur peignait celle qu'ils cherchent. Ô ma Julie, disais-je avec attendrissement, que ne puis-je couler mes jours avec toi dans ces lieux ignorés, heureux de notre bonheur et non du regard des hommes. Que ne puis-je ici rassembler toute mon âme en toi seule et devenir à mon tour l'univers pour toi. Charmes adorés, vous jouiriez alors des hommages qui vous sont dus, délices de l'amour. C'est alors que nos cœurs vous savoureraient sans cesse. Une longue et douce ivresse nous laisserait ignorer le cours des ans. Et quand enfin l'âge aurait calmé nos premiers feux, l'habitude de penser et de sentir ensemble ferait succéder à leur transport une amitié non moins tendre. Tous les sentiments honnêtes, nourris dans la jeunesse avec ceux de l'amour, en rempliraient un jour le vide immense. Nous pratiquerions, au sein de cet heureux peuple et à son exemple, tous les devoirs de l'humanité. Sans cesse nous nous unirions pour bien faire et nous ne mourrions point sans avoir vécu. La poste arrive, il faut finir ma lettre et courir recevoir la vôtre. Que le cœur me bat jusqu'à ce moment. Hélas, j'étais heureux dans mes chimères, mon bonheur fuit avec elle. Que vais-je être en réalité ?
Lettre 24. De Saint-Preux à Julie.
Je réponds sur le champ à l'article de votre lettre qui regarde le paiement et n'est, Dieu merci, nul besoin d'y réfléchir. Voici, ma Julie, quel est mon sentiment sur ce point. Je distingue, dans ce que l'on appelle honneur, celui qui se tire de l'opinion publique et celui qui dérive de l'estime de soi-même. Le premier consiste en 20 préjugés plus mobiles qu'une onde agitée. Le second a sa base dans les vérités éternelles de la morale. L'honneur du monde peut être avantageux à la fortune, mais il ne pénètre point dans l'âme et n'influe en rien sur le vrai bonheur. L'honneur véritable, au contraire, en forme l'essence, parce qu'on ne trouve qu'en lui ce sentiment permanent de satisfaction intérieure qui seul peut rendre heureux un être pensant. Appliquons, ma Julie, ces principes à votre question. Elle sera bientôt résolue. Que je m'érige en maître de philosophie et prenne, comme ce fou de la fable, de l'argent pour enseigner la sagesse, cet emploi paraîtra bas aux yeux du monde, et j'avoue qu'il a quelque chose de ridicule en soi. Cependant, comme aucun homme ne peut tirer sa subsistance absolument de lui-même, et qu'on ne saurait l'en tirer de plus près que par son travail, nous mettrons ce mépris au rang des plus dangereux préjugés. Nous n'aurons point la sottise de sacrifier la félicité à cette opinion insensée. Vous ne m'en estimerez pas moins, et je n'en serai pas plus à plaindre quand je vivrai des talents que j'ai cultivés. Mais ici, ma Julie, nous avons d'autres considérations à faire. Laissons la multitude et regardons en nous-mêmes. Que serais-je réellement à votre père en recevant de lui le salaire des leçons que je vous aurais donné, et lui vendant une partie de mon temps, c'est-à-dire de ma personne? Un mercenaire, un homme à ses gages, une espèce de valet. Et il aura de ma part, pour garant de sa confiance et pour sûreté de ce qui lui appartient, ma foi tacite, comme celle du dernier de ces gens. Or, quel bien plus précieux peut avoir un père que sa fille unique, fût-ce même une autre que Julie? Que fera donc celui qui lui vend ses services? Fera-t-il taire ses sentiments pour elle? Ah, tu sais si cela se peut. Ou bien, se livrant sans scrupule au penchant de son cœur, offensera-t-il dans la partie la plus sensible celui à qui il doit fidélité? Alors je ne vois plus dans un tel maître qu'un perfide qui foule aux pieds les droits les plus sacrés, un traître, un séducteur domestique, que les lois condamnent très justement à la mort. J'espère que celle à qui je parle sait m'entendre. Ce n'est pas la mort que je crains, mais la honte d'en être digne, et le mépris de moi-même. Quand les lettres d'Héloïse et d'Abélard tombèrent entre vos mains, vous savez ce que je vous dis de cette lecture et de la conduite du théologien. J'ai toujours plaint Héloïse. Elle avait un cœur fait pour aimer, mais Abélard ne m'a jamais paru qu'un misérable digne de son sort, et connaissant aussi peu l'amour que la vertu. Après l'avoir jugé, faudra-t-il que je l'imite? Malheur à quiconque prêche une morale qu'il ne veut pas pratiquer. Celui qui aveugle sa passion jusqu'à ce point en est bientôt puni par elle, et perd le goût des sentiments auxquels il a sacrifié son honneur. l'amour est privé de son plus grand charme quand l'honnêteté l'abandonne. Pour en sentir tout le prix, il faut que le cœur s'y complaise, et qu'il nous élève en élevant l'objet aimé. Ôtez l'idée de la perfection, vous ôtez l'enthousiasme. Ôtez l'estime, et l'amour n'est plus rien. Comment une femme pourrait-elle honorer un homme qui se déshonore? Comment pourra-t-il adorer lui-même celle qui n'a pas craint de s'abandonner à un vil corrupteur? Ainsi, bientôt, ils se mépriseront mutuellement. L'amour ne sera plus pour eux qu'un honteux commerce. Ils auront perdu l'honneur et n'auront point trouvé la félicité. Il n'en est pas ainsi, ma Julie. Entre deux amants de même âge, tous deux épris du même feu, qu'un mutuel attachement uni, qu'aucun lien particulier ne gêne, qui jouissent tous deux de leur première liberté, et dont aucun droit ne proscrit l'engagement réciproque. Les lois les plus sévères ne peuvent leur imposer d'autres peines que le prix même de leur amour. La seule punition de s'être aimé est l'obligation de s'aimer à jamais. Et s'il est quelques malheureux climats au monde où l'homme barbare brise ses innocentes chaînes, il en est puni sans doute par les crimes que cette contrainte engendre. Voilà mes raisons, sage et vertueuse Julie. Elles ne sont qu'un froid commentaire de celles que vous m'exposâtes avec tant d'énergie et de vivacité dans une de vos lettres, mais c'en est assez pour vous montrer combien je m'en suis pénétré. Vous vous souvenez que je n'insistais point sur mon refus, et que, malgré la répugnance que le préjugé m'a laissée, j'acceptais vos dons en silence, ne trouvant point en effet dans le véritable honneur de solides raisons pour les refuser. Mais ici, le devoir, la raison, l'amour même, tout parle d'un ton que je ne peux méconnaître. S'il faut choisir entre l'honneur et vous, mon cœur est prêt à vous perdre. Il vous aime trop, ô Julie, pour vous conserver à ce prix.
Lettre 25 de Julie à Saint-Preux.
La relation de votre voyage est charmante, mon bon ami. Elle me ferait aimer celui qui l'a écrite, quand même je ne le connaîtrais pas. J'ai pourtant à vous tancer sur un passage dont vous vous doutez bien, quoique je n'ai pu m'empêcher de rire de la ruse avec laquelle vous êtes mis à l'abri du Tasse comme derrière un rempart. Hé, comment ne sentiez-vous point qu'il y a bien de la différence entre écrire au public ou à sa maîtresse? L'amour si craintif, si scrupuleux, n'exige-t-il pas plus d'égards que la bienséance? Pouviez-vous ignorer que ce style n'est pas de mon goût, et cherchiez-vous à me déplaire? Mais en voilà déjà trop peut-être sur un sujet qu'il ne fallait point relever. Je suis d'ailleurs trop occupée de votre seconde lettre pour répondre en détail à la première. Ainsi, mon ami, laissons le valet pour une autre fois, et bornons-nous maintenant à nos affaires, nous serons assez occupés. Je savais le parti que vous prendriez. Nous nous connaissons trop bien pour en être encore à ces éléments. Si jamais la vertu nous abandonne, ce ne sera pas, croyez-moi, dans les occasions qui demandent du courage et des sacrifices. Le premier mouvement aux attaques vives est de résister, et nous vaincrons, je l'espère, tant que l'ennemi nous avertira de prendre les armes. C'est au milieu du sommeil, c'est dans le sein d'un doux repos, qu'il faut se défier des surprises, mais c'est surtout la continuité des maux qui rend leur poids insupportable, et l'âme résiste bien plus aisément aux vives douleurs qu'à la tristesse prolongée. Voilà, mon ami, la dure espèce de combat que nous aurons désormais à soutenir. Ce ne sont point des actions héroïques que le devoir nous demande, mais une résistance plus héroïque encore, à des peines sans relâche. Je l'avais trop prévu. Le temps du bonheur est passé comme un éclair. Celui des disgrâces commence, sans que rien m'aide à juger quand il finira. Tout m'alarme et me décourage. Une langueur mortelle s'empare de mon âme. Sans sujet bien précis de pleurer, des pleurs involontaires s'échappent de mes yeux. Je ne lis pas dans l'avenir des maux inévitables, mais je cultivais l'espérance et la vois flétrir tous les jours. Que sert, hélas, d'arroser le feuillage quand l'arbre est coupé par le pied? Je le sens, mon ami, le poids de l'absence m'accable. Je ne puis vivre sans toi, je le sens, c'est ce qui m'effraie le plus. Je parcours 100 fois le jour les lieux que nous habitions ensemble et ne t'y trouve jamais. Je t'attends à ton heure ordinaire, l'heure passe et tu ne viens point. Tous les objets que j'aperçois me portent quelque idée de ta présence pour m'avertir que je t'ai perdu. Tu n'as point ce supplice affreux, ton cœur seul peut te dire que je te manque. Ah, si tu savais quel pire tourment c'est de rester quand on se sépare, combien tu préférerais ton état au mien. Encore, si j'osais gémir, Si j'osais parler de mes peines, je me sentirais soulagée des maux dont je pourrais me plaindre. Mais, hors quelques soupirs exhalés en secret dans le sein de ma cousine, il faut étouffer tous les autres, il faut contenir mes larmes, il faut sourire quand je me meurs. Sentirsi odes morir et non poter mai dire morir mi sento. Le pis est que tous ces mots empirent sans cesse mon plus grand mal, et que plus ton souvenir me désole, plus j'aime à me le rappeler. Dis-moi, mon ami, mon doux ami, sens-tu combien un cœur languissant est tendre, et combien la tristesse fait fermenter l'amour? Je voulais vous parler de mille choses, mais, outre qu'il faut mieux attendre de savoir positivement où vous êtes, il ne m'est pas possible de continuer cette lettre dans l'état où je me trouve en l'écrivant. Adieu, mon ami, je quitte la plume, mais croyez que je ne vous quitte pas.
Billet de Saint-Preux à Julie.
J'écris, par un batelier que je ne connais point, ce billet à l'adresse ordinaire, pour donner avis que j'ai choisi mon asile à Meillery, sur la rive opposée, afin de jouir au moins de la vue du lieu dont je n'ose approcher.
Lettre 26 de Saint-Preux à Julie.
Que mon état est changé dans peu de jours. Que d'amertume se mêlent à la douceur de me rapprocher de vous. Que de tristes réflexions m'assiègent. Que de traverses mes craintes me font prévoir. Oh, Julie, que c'est un fatal présent du ciel qu'une âme sensible. Celui qui l'a reçu doit s'attendre à n'avoir que peine et douleur sur la terre. Ville jouet de l'air et des saisons, le soleil ou les brouillards, l'air couvert ou serein, régleront sa destinée, et il sera content ou triste au gré des vents. Victime des préjugés, il trouvera dans d'absurdes maximes un obstacle invincible aux justes vœux de son cœur. Les hommes le puniront d'avoir des sentiments droits de chaque chose, et d'en juger par ce qui est véritable plutôt que par ce qui est de convention. Seul, il suffirait, pour faire sa propre misère, en se livrant indiscrètement aux attraits divins de l'honnête et du beau, tandis que les pesantes chaînes de la nécessité l'attachent à l'ignominie. Il cherchera la félicité suprême sans se souvenir qu'il est homme. Son cœur et sa raison seront incessamment en guerre, et des désirs sans bornes lui prépareront d'éternelles privations. Telle est la situation cruelle où me plonge le sort qui m'accable et mes sentiments qui m'élèvent, et ton père qui me méprise, et toi qui fais le charme et le tourment de ma vie. Sans toi, beauté fatale, je n'aurais jamais senti ce contraste insupportable de grandeur au fond de mon âme et de bassesse dans ma fortune. J'aurais vécu tranquille et serais mort content, sans daigner remarquer quel rang j'avais occupé sur la terre. Mais t'avoir vu et ne pouvoir te posséder, t'adorer et n'être qu'un homme, être aimé et ne pouvoir être heureux, habiter les mêmes lieux et ne pouvoir vivre ensemble. Ô Julie, à qui je ne puis renoncer, ô destinée que je ne puis vaincre, quels combats affreux vous excitez en moi, sans pouvoir jamais surmonter mes désirs ni mon impuissance. Quel effet bizarre et inconcevable! Depuis que je me suis rapproché de vous, je ne roule dans mon esprit que des pensées funestes. Peut-être le séjour où je suis contribue-t-il à cette mélancolie. Il est triste et horrible. Il est en plus conforme à l'état de mon âme, et je n'en habiterai pas si patiemment un plus agréable. Une file de rochers stériles borde la côte et environne mon habitation, que l'hiver rend encore plus affreuse. Ah, je le sens, ma Julie, s'il fallait renoncer à vous, il n'y aurait plus pour moi d'autre séjour ni d'autre saison. Dans les violents transports qui m'agitent, je ne saurais demeurer en place. Je cours, je monte avec ardeur, je m'élance sur les rochers, je parcours à grands pas tous les environs, et trouve partout dans les objets la même horreur qui règne au-dedans de moi. On n'aperçoit plus de verdure, l'herbe est jaune et flétrie, les arbres sont dépouillés. Le séchard et la froide bise entassent la neige et les glaces, et toute la nature est morte à mes yeux, comme l'espérance au fond de mon cœur. Parmi les rochers de cette côte, j'ai trouvé, dans un abri solitaire, une petite esplanade d'où l'on découvre à plein la ville heureuse où vous habitez. Jugez avec quelle avidité mes yeux se portent vers ce séjour chéri. Le premier jour, je fis 1000 efforts pour y discerner votre demeure, mais l'extrême éloignement les rendit vains, et je m'aperçus que mon imagination donnait le change à mes yeux fatigués. Je courus chez le curé emprunter un télescope avec lequel je vis ou je crus voir votre maison. Et depuis ce temps, je passe les jours entiers dans cet asile à contempler ces murs fortunés qui renferment la source de ma vie. Malgré la saison, je m'y rends dès le matin et n'en reviens qu'à la nuit. Des feuilles et quelques bois secs que j'allume servent avec mes courses à me garantir du froid excessif. J'ai pris tant de goût pour ce lieu sauvage que j'y porte même de l'encre et du papier, et j'y écris maintenant cette lettre sur un quartier que les glaces ont détaché du rocher voisin. C'est là, ma Julie, que ton malheureux amant achève de jouir des derniers plaisirs qu'il goûtera peut-être en ce monde. C'est de là qu'à travers les airs et les murs, il ose en secret pénétrer jusque dans ta chambre. Tes traits charmants le frappent encore, tes regards tendres raniment son cœur mourant. Il entend le son de ta douce voix. Il ose chercher encore en tes bras ce délice qu'il éprouva dans le bosquet, vain fantôme d'une âme agitée qui s'égare dans ses désirs. Bientôt forcé de rentrer en moi-même, je te contemple au moins dans le détail de ton innocente vie. Je suis de loin les diverses occupations de ta journée, et je me les représente dans les temps et les lieux où j'en fus quelquefois l'heureux témoin. Toujours je te vois vaquer à des soins qui te rendent plus estimable, et mon cœur s'attendrit avec délice sur l'inépuisable bonté du tien. Maintenant, me dis-je au matin, elle sort d'un paisible sommeil. Son teint a la fraîcheur de la rose, son âme jouit d'une douce paix. Elle offre à celui dont elle tient l'être un jour qui ne sera point perdu pour la vertu. Elle passe à présent chez sa mère. Les tendres affections de son cœur s'épanchent avec les hauteurs de ses jours. Elle les soulage dans le détail des soins de la maison. Elle fait peut-être la paix d'un domestique imprudent. Elle lui fait peut-être une exhortation secrète. Elle demande peut-être une grâce pour un autre. Dans un autre temps, elle s'occupe sans ennui des travaux de son sexe. Elle orne son âme de connaissances utiles. Elle ajoute à son goût exquis les agréments des beaux-arts et ceux de la danse à sa légèreté naturelle. Tantôt je vois une élégante et simple parure ornée des charmes qui n'en ont pas besoin. Ici, je la vois consulter un pasteur vénérable sur la peine ignorée d'une famille indigente. Là, secourir ou consoler la triste veuve et l'orphelin délaissé. Tantôt elle charme une honnête société par ses discours sensés et modestes, tantôt, en riant avec ses compagnes, elle ramène une jeunesse folâtre au ton de la sagesse et des bonnes mœurs. Quel moment! Ah, pardonne, j'ose te voir même t'occuper de moi. Je vois tes yeux attendris parcourir une de mes lettres. Je lis dans leur douce langueur que c'est à ton amant fortuné que s'adressent les lignes que tu traces. Je vois que c'est de lui que tu parles à ta cousine avec une si tendre émotion. Oh, Julie, et nous ne serions pas unis? Et nos jours ne couleraient pas ensemble? Non, que jamais cette affreuse idée ne se présente à mon esprit. En un instant, elle change tout mon attendrissement en fureur. La rage me fait courir de caverne en caverne. Des gémissements et des cris m'échappent malgré moi. Je rugis comme une lionne irritée. Je suis capable de tout, hors de renoncer à toi. Et il n'y a rien, non, rien, que je ne fasse pour te posséder ou mourir. J'en étais ici de ma lettre. Je n'attendais qu'une occasion sûre pour vous l'envoyer quand j'ai reçu de Sion la dernière que vous m'y avez écrite. Que la tristesse qu'elle respire a charmé la mienne. Que j'y ai vu un frappant exemple de ce que vous me disiez de l'accord de nos âmes dans les lieux éloignés. Votre affliction, je l'avoue, est plus patiente. La mienne est plus emportée. Mais il faut bien que le même sentiment prenne la teinture des caractères qui l'éprouvent, et il est bien naturel que les plus grandes pertes causent les plus grandes douleurs. Que dis-je des pertes? Qui les pourrait supporter? Non, connaissez-le enfin, ma Julie. Un éternel arrêt du ciel nous destina l'un pour l'autre. C'est la première loi qu'il nous faut écouter. C'est le premier soin de la vie de s'unir à qui doit nous la rendre douce. Je le vois, j'en gémis. Tu t'égares dans tes vains projets. Tu veux forcer des barrières insurmontables et négliges les seuls moyens possibles. L'enthousiasme de l'honnêteté t'ôte la raison. Et ta vertu n'est plus qu'un délire. Ah, si tu pouvais rester toujours jeune et brillante comme à présent, je ne demanderais au ciel que de te savoir éternellement heureuse, te voir tous les ans de ma vie, une fois, une seule fois, et passer le reste de mes jours à contempler de loin ton asile, à t'adorer parmi ces rochers. Mais, hélas, vois la rapidité de cet astre qui jamais n'arrête. Il vole et le temps fuit, l'occasion s'échappe. Ta beauté même aura son terme. Elle doit décliner et périr un jour comme une fleur qui tombe sans avoir été cueillie. Et moi, cependant, je gémis, je souffre, ma jeunesse s'use dans les larmes et se flétrit dans la douleur. Pense, pense, Julie, que nous comptons déjà des années perdues pour le plaisir. Pense qu'elles ne reviendront jamais. Qu'il en sera de même de celles qui nous restent si nous les laissons échapper encore. Oh, amante aveuglée, tu cherches un chimérique bonheur pour un temps où nous ne serons plus. Tu regardes un avenir éloigné et tu ne vois pas que nous nous consumons sans cesse et que nos âmes, épuisées d'amour et de peine, se fondent et coulent comme l'eau. Reviens. Il en est temps encore. Reviens, ma Julie, de cette erreur funeste. Laisse là tes projets et sois heureuse. Viens, ô mon âme, dans les bras de ton ami, réunir les deux moitiés de notre être. Viens à la face du ciel, guide de notre fuite et témoin de nos serments, jurés de vivre et mourir l'un à l'autre. Ce n'est pas toi, je le sais, qu'il faut rassurer contre la crainte de l'indigence. Soyons heureux et pauvres. Quel trésor nous aurons acquis! Mais ne faisons point cet affront à l'humanité, de croire qu'il ne restera pas sur la terre entière un asile à deux amants infortunés. J'ai des bras, je suis robuste. Le pain gagné par mon travail te paraîtra plus délicieux que les mets des festins. Un repas apprêté par l'amour peut-il jamais être insipide? Ah, tendre et chère amante, dussions-nous n'être heureux qu'un seul jour, veux-tu quitter cette courte vie sans avoir goûté le bonheur? Je n'ai plus qu'un mot à vous dire, ô Julie. Vous connaissez l'antique usage du rocher de Leucate, dernier refuge de tant d'amants malheureux. Ce lieu-ci lui ressemble à bien des égards. La roche est escarpée, l'eau est profonde, et je suis au désespoir.
Lettre 27 de Claire à Julie.
Ma douleur me laisse à peine la force de vous écrire. Vos malheurs et les miens sont au comble. L'aimable Julie est à l'extrémité et n'a peut-être pas deux jours à vivre. L'effort qu'elle fit pour vous éloigner d'elle commença d'altérer sa santé. La première conversation qu'elle eut sur votre compte avec son père y porta de nouvelles attaques. D'autres chagrins plus récents ont accru ses agitations. Et votre dernière lettre a fait le reste. Elle en fut si vivement émue qu'après avoir passé une nuit dans d'affreux combats, elle tomba hier dans l'accès d'une fièvre ardente qui n'a fait qu'augmenter sans cesse et lui a enfin donné le transport. Dans cet état, elle vous nomme à chaque instant et parle de vous avec une véhémence qui montre combien elle en est occupée. On éloigne son père autant qu'il est possible. Cela prouve assez que ma tante a conçu des soupçons. Elle m'a même demandé avec inquiétude si vous n'étiez pas de retour. Et je vois que, le danger de sa fille effaçant pour le moment toute autre considération, elle ne serait pas fâchée de vous voir ici. Venez donc sans différer. J'ai pris ce bateau exprès pour vous porter cette lettre. Il est à vos ordres. Servez-vous-en pour votre retour et surtout ne perdez pas un moment. Si vous voulez revoir la plus tendre amante qui fut jamais.
Lettre 28 de Julie à Claire.
Que ton absence me rend amère la vie que tu m'as rendue. Quelle convalescence! Une passion plus terrible que la fièvre et le transport m'entraîne à ma perte. Cruel, tu me quittes quand j'ai plus besoin de toi. Tu m'as quitté pour 8 jours, peut-être ne me reverras-tu jamais. Oh, si tu savais ce que l'insensé m'ose proposer, et de quel ton! M'enfuir, le suivre, m'enlever, le malheureux! De qui me plains-je? Mon cœur, mon indigne cœur, m'en dit 100 fois plus que lui. Grand Dieu, que serait-ce s'il savait tout? Il en deviendrait furieux, je serais entraîné, il faudrait partir. Je frémis. Enfin, mon père m'a donc vendu. Il fait de sa fille une marchandise, une esclave. Il s'acquitte à mes dépens, il paye sa vie de la mienne. Car, je le sens bien, je n'y survivrai jamais. Père barbare et dénaturé, mérite-t-il? Quoi? Mériter? C'est le meilleur des pères. Il veut unir sa fille à son ami, voilà son crime. Mais ma mère, ma tendre mère, quel mal m'a-t-elle fait? Ah, beaucoup! Elle m'a trop aimé, elle m'a perdu. Claire, que ferai-je? Que deviendrai-je? Hans ne vient point. Je ne sais comment t'envoyer cette lettre. Avant que tu la reçoives, avant que tu sois de retour, qui sait, fugitive, errante, déshonorée. C'en est fait, la crise est venue. Un jour, une heure, un moment peut-être, qui est-ce qui sait éviter son sort? Oh, dans quelque lieu que je vive et que je meure, en quelque asile obscur que je traîne ma honte et mon désespoir, Claire, souviens-toi de ton ami. Hélas, la misère et l'opprobre changent les cœurs. Ah, si jamais le mien t'oublie, il aura beaucoup changé.
Lettre 29 de Julie à Claire.
Reste, ah reste, ne reviens jamais, tu viendrais trop tard. Je ne dois plus te voir, comment soutiendrais-je ta vue? Où étais-tu ma douce amie, ma sauvegarde, mon ange tutélaire? Tu m'as abandonnée et j'ai péri. Quoi, ce fatal voyage était-il si nécessaire ou si pressé? Pouvais-tu me laisser à moi-même, dans l'instant le plus dangereux de ma vie? Que de regrets tu t'es préparé par cette coupable négligence! Ils seront éternels, ainsi que mes pleurs. Ta perte n'est pas moins irréparable que la mienne, et une autre amie digne de toi n'est pas plus facile à recouvrer que mon innocence. Qu'ai-je dit, misérable? Je ne puis ni parler ni me taire. Que sert le silence quand le remords crie? L'univers entier ne me reproche-t-il pas ma faute? Ma honte n'est-elle pas écrite sur tous les objets? Si je ne verse mon cœur dans le tien, il faudra que j'étouffe. Et toi, ne te reproches-tu rien, facile et trop confiante amie? Ah, que ne me trahissais-tu? C'est ta fidélité, ton aveugle amitié, c'est ta malheureuse indulgence qui m'a perdue. Quel démon t'inspira de le rappeler, ce cruel qui fait mon opprobre? Ces perfides soins devaient-ils me redonner la vie pour me la rendre odieuse? Qu'il fuit à jamais le barbare, qu'un reste de pitié le touche, qu'il ne vienne plus redoubler mes tourments par sa présence, qu'il renonce au plaisir féroce de contempler mes larmes. Que dis-je, hélas, il n'est point coupable. C'est moi seul qui le suis. Tous mes malheurs sont mon ouvrage, et je n'ai rien à reprocher qu'à moi. Mais le vice a déjà corrompu mon âme. C'est le premier de ses effets de nous faire accuser autrui de nos crimes. Non, non, jamais il ne fut capable d'enfreindre ses serments. Son cœur vertueux ignore l'art abject d'outrager ceux qu'il aime. Ah, sans doute il sait mieux aimer que moi, puisqu'il sait mieux se vaincre. 100 fois mes yeux furent témoins de ses combats et de sa victoire. Les siens étincelaient du feu de ses désirs. Il s'élançait vers moi dans l'impétuosité d'un transport aveugle. Il s'arrêtait tout à coup. Une barrière insurmontable semblait m'avoir entouré, et jamais son amour impétueux, mais honnête, ne l'eût franchi. J'osais trop contempler ce dangereux spectacle. Je me sentais troublé de ses transports. Ses soupirs oppressaient mon cœur. Je partageais ses tourments en ne pensant que les plaindre. Je le vis, dans des agitations convulsives, prêtes à s'évanouir à mes pieds. Peut-être l'amour seul m'aurait épargné, ô ma cousine. C'est la pitié qui me perdit. Il semblait que ma passion funeste voulût se couvrir, pour me séduire, du masque de toutes les vertus. Ce jour même, il m'avait pressé avec plus d'ardeur de le suivre. C'était désoler le meilleur des pères, c'était plonger le poignard dans le sein maternel. Je résistais, je rejetais ce projet avec horreur. L'impossibilité de voir jamais nos vœux accomplis, le mystère qu'il fallait lui faire de cette impossibilité, le regret d'abuser un amant si soumis et si tendre après avoir flatté son espoir, tout abattait mon courage, tout augmentait ma faiblesse, tout aliénait ma raison. Il fallait donner la mort aux auteurs de mes jours, à mon amant ou à moi-même. Sans savoir ce que je faisais, je choisis ma propre infortune. J'oubliais tout. et ne me souvins que de l'amour. C'est ainsi qu'un instant d'égarement m'a perdu à jamais. Je suis tombée dans l'abîme d'ignominie dont une fille ne revient point, et si je vis, c'est pour être plus malheureuse. Je cherche en gémissant quelques restes de consolation sur la terre. Je n'y vois que toi, mon aimable ami. Ne me prive pas d'une si charmante ressource, je t'en conjure. Ne m'ôte pas les douceurs de ton amitié. J'ai perdu le droit d'y prétendre, mais jamais je n'en eus si grand besoin. Que la pitié supplée à l'estime. Viens, ma chère, ouvrir ton âme à mes plaintes. Viens recueillir les larmes de ton ami. Garantis-moi, s'il se peut, du mépris de moi-même, et fais-moi croire que je n'ai pas tout perdu, puisque ton cœur me reste encore.
Réponse de Claire à Julie.
Fille infortunée, hélas, qu'as-tu fait? Mon Dieu, tu étais si digne d'être sage. Que te dirais-je dans l'horreur de ta situation et dans l'abattement où elle te plonge? Achèverais-je d'accabler ton pauvre cœur ou t'offrirais-je des consolations qui se refusent aux miens? Te montrerais-je les objets tels qu'ils sont ou tels qu'il te convient de les voir? Sainte et pure amitié, porte à mon esprit tes douces illusions. Et, dans la tendre pitié que tu m'inspires, abuse-moi la première sur des maux que tu ne peux plus guérir. J'ai craint, tu le sais, le malheur dont tu gémis. Combien de fois je te l'ai prédit sans être écouté. Il est l'effet d'une téméraire confiance. Ah, ce n'est plus de tout cela qu'il s'agit. J'aurais trahi ton secret sans doute si j'avais pu te sauver ainsi. Mais j'ai lu mieux que toi dans ton cœur trop sensible. Je le vis se consumer d'un feu dévorant que rien ne pouvait éteindre. Je sentis dans ce cœur palpitant d'amour qu'il fallait être heureuse ou mourir. Et quand la peur de succomber te fit bannir ton amant avec tant de larmes, je jugeai que bientôt tu ne serais plus ou qu'il serait bientôt rappelé. Mais quel fut mon effroi quand je te vis dégoûté de vivre ici près de la mort. N'accuse ni ton amant ni toi d'une faute dont je suis la plus coupable, puisque je l'ai prévue sans la prévenir. Il est vrai que je partis malgré moi, tu le vis, il fallut obéir. Si je t'avais cru, si près de ta perte, on m'aurait plutôt mis en pièces que de m'arracher à toi. Je m'abusais sur le moment du péril. Faible et languissante encore, tu me parus en sûreté contre une si courte absence. Je ne prévis pas la dangereuse alternative où tu t'allais trouver. J'oubliais que ta propre faiblesse laissait ce cœur abattu moins en état de se défendre contre lui-même. J'en demande pardon au mien. J'ai peine à me repentir d'une erreur qui t'a sauvé la vie. Je n'ai pas ce dur courage qui te faisait renoncer à moi. Je n'aurais pu te perdre sans un mortel désespoir, et j'aime encore mieux que tu vives et que tu pleures. Mais pourquoi tant de pleurs, chère et douce amie? Pourquoi ces regrets plus grands que ta faute et ce mépris de toi-même que tu n'as pas mérité? Une faiblesse effacera-t-elle tant de sacrifices? Et le danger même dont tu sors n'est-il pas une preuve de ta vertu? Tu ne penses qu'à ta défaite et oublie tous les triomphes pénibles qui l'ont précédée. Si tu as plus combattu que celle qui résiste, n'as-tu pas plus fait pour l'honneur qu'elle? Si rien ne peut te justifier, songe au moins à ce qui t'excuse. Je connais à peu près ce qu'on appelle amour. Je saurai toujours résister au transport qu'il inspire. Mais j'aurais fait moins de résistance à un amour pareil au tien. Et, sans avoir été vaincu, je suis moins chaste que toi. Ce langage te choquera, mais ton plus grand malheur est de l'avoir rendu nécessaire. Je donnerai ma vie pour qu'il ne te fût pas propre, car je hais les mauvaises maximes encore plus que les mauvaises actions. Si la faute était à commettre que j'eusse la bassesse de te parler ainsi, et toi celle de m'écouter, nous serions toutes deux les dernières des créatures. À présent, ma chère, je dois te parler ainsi et tu dois m'écouter ou tu es perdue. Car il reste en toi 1000 adorables qualités que l'estime de toi-même peut seule conserver, qu'un excès de honte et l'avilissement qui le suit détruiraient infailliblement. Et c'est sur ce que tu croiras valoir encore que tu vaudras en effet. Garde-toi donc de tomber dans un abattement dangereux qui t'avilirait plus que ta faiblesse. Le véritable amour est-il fait pour dégrader l'âme? Qu'une faute que l'amour a commise ne t'ôte point ce noble enthousiasme de l'honnête et du beau qui t'éleva toujours au-dessus de toi-même. Une tache paraît-elle au soleil? Combien de vertus te reste pour une qui s'est altérée? En seras-tu moins douce, moins sincère, moins bienfaisante? En seras-tu moins digne, en un mot, de tous nos hommages? L'honneur, l'humanité, l'amitié, le pur amour, en seront-ils moins chers à ton cœur? En aimeras-tu moins les vertus mêmes que tu n'auras plus? Non, chère et bonne Julie, ta Claire, en te plaignant, t'adore. Elle sait, elle sent qu'il n'y a rien de bien qui ne puisse encore sortir de ton âme. Ah, crois-moi, tu pourrais beaucoup perdre avant qu'aucune autre plus sage que toi te value jamais. Enfin, tu me restes. Je puis me consoler de tout hors de te perdre. Ta première lettre m'a fait frémir. Elle m'eût presque fait désirer la seconde si je ne l'avais reçue en même temps. Vouloir délaisser son ami, projeter de s'enfuir sans moi? Tu ne parles point de ta plus grande faute. C'était de celle-là qu'il fallait 100 fois plus rougir. Mais l'ingrate ne songe qu'à son amour. Tiens, je t'aurais été tuée au bout du monde. Je compte, avec une mortelle impatience, les moments que je suis forcée à passer loin de toi. Ils se prolongent cruellement. Nous sommes encore pour 6 jours à Lausanne. Après quoi, je volerai vers mon unique amie. J'irai la consoler ou m'affliger avec elle, essuyer ou partager ses pleurs. Je ferai parler dans ta douleur moins l'inflexible raison que la tendre amitié. Chère cousine, il faut gémir, nous aimer, nous taire, et, s'il se peut, effacer, à force de vertu, une faute qu'on ne répare point avec des larmes. Ah, ma pauvre Chaillot!